Quand la forêt brûle, de quoi faut-il s'inquiéter? C'est la question que nous posons à nos invités dans ce nouvel épisode de Détour vers le futur.
On a tous vu cet été ces images impressionnantes de ces gigantesques incendies de forêt qui ont ravagé des milliers d'hectares au Canada. D'un autre côté, bon nombre de nos anciens ont toujours vu ces feux de forêt et régulièrement, la nature semble littéralement reprendre ses droits. Quand la forêt brûle, est-ce grave, docteur? Et qu'en pensent nos invités, Laurent?
Alors nous allons tout de suite leur demander, après les avoir présentés. Jérôme Chave, vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire Évolution et Diversité Biologique de l'Université Toulouse-Paul Sabatier. Vous êtes un spécialiste des forêts et en particulier des forêts tropicales. Vous allez nous aider à y voir plus clair sur l'impact de ces feux sur la vie de ces écosystèmes que sont les forêts. Bonjour Jérôme.
Bonjour à vous.
Pascal You, vous êtes directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous êtes plutôt un matheux, spécialiste de la modélisation du climat. Vous allez nous aider à faire le lien entre ces incendies de forêt et le climat et ses changements actuels. Bonjour Pascal.
Bonjour à vous.
Alors pour démarrer, est-ce qu'on peut vous demander, Jérôme, si de votre point de vue d'écologue, vous faites une différence entre les petits feux de forêt et les méga-feux de forêt? Est-ce que la taille, ça compte pour un feu de forêt?
La taille, ça compte en général, et ça compte pour les feux également. Les petits feux ne sont pas la même chose que les grands feux, on est bien d'accord sur ça.
Est-ce qu'ils ont le même impact? Enfin, comment on fait cette différence? En quoi elle est importante, cette différence?
Dans l'absolu, pour les écosystèmes, pour les forêts, ouais. C'est essentiel de savoir si le feu passe très rapidement dans la forêt ou s'il reste longtemps, s'il brûle beaucoup de bois ou s'il brûle uniquement en superficie. Donc ça, c'est des facteurs d'intensité qui sont importants à comparer entre les feux. Un point important, c'est que les feux de très très grande superficie vont avoir un impact plus important par nature que les petits feux.
Et à quel moment on considère qu'on arrive sur un méga feu? Est-ce qu'il y a une taille? À quel moment ça passe de l'un à l'autre? Est-ce que c'est un critère de surface ou est-ce que c'est d'incontrôlabilité? Enfin, comment on les différencie, on les distingue?
C'est assez subjectif, mais c'est vrai qu'on s'imagine bien que les grands feux dont on a entendu parler au Canada cet été, c'est très différent d'un petit feu, disons, dans un jardin. Mais il y a un continuum entre les deux. Il y a beaucoup, beaucoup de très petits feux et quelques méga-feux qui font l'actualité.
Qui sont plus visibles. Mmh. Et à travers le temps, Pascal You, est-ce que ces méga-feux, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, qu'on a déjà vu? Alors on parle de ceux du Canada, effectivement, qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Mais est-ce qu'il y en a eu d'autres par le passé, d'aussi grands? Est-ce qu'on est capable de le mesurer et d'où ça, jusqu'où on peut remonter?
Alors, on peut remonter à des paléo-feux, à travers des charbons de bois qu'on retrouve dans le sol et qu'on est capable de dater. Ça vous dit juste que une forêt a brûlé à tel endroit. Il est très difficile de dire l'étendue spatiale de tel feu. Donc, des paléo-feux, oui, on en a depuis très longtemps. Il suffit de pas grand-chose pour faire brûler une forêt, enfin, un peu de sécheresse, un éclair, et ça brûle. Cela dit, il semble que l'ampleur des feux qu'on voit à l'heure actuelle, enfin, que ce soit au Canada cette année, en Australie il n'y a pas si longtemps, à Hawaï cette année, cette recrudescence soit assez anormal par rapport à ce que l'on connaît des paléo-feux qui ont touché la planète au cours des 10 000 dernières années.
Mmh. Oui, justement, si on parle l'origine du coup de ces feux, est-ce que donc on a une origine véritablement anthropique de ces méga-feux? Enfin, c'est ce qu'on entend partout aujourd'hui, c'est-à-dire que le changement climatique serait à l'origine de ces méga-feux. Est-ce que pour les petits feux, je reviens sur vous Jérôme, les petits feux c'est aussi des origines naturelles, mais c'est aussi beaucoup d'origines humaines?
Alors, entre le passé et maintenant, certainement la réponse serait différente.
Oui.
Par le passé, on peut imaginer qu'il y a eu toujours des feux, parce que la forêt sont là depuis des millions d'années, et que certainement les feux étaient d'origine naturelle. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est peuplé d'humains partout, et probablement il y a très peu de feux d'origine naturelle aujourd'hui. C'est-à-dire l'origine, c'est qui allume l'allumette ou jette un mégot. En général, c'est ça l'origine des feux aujourd'hui. Bon, je parle sous contrôle de Pascal, mais je pense que c'est ça vraiment le mécanisme principal, l'origine.
Mmh. On peut remonter quand même dans le passé à travers les pratiques agricoles aussi, puisque une des origines humaines du feu, c'est le feu utilisé comme une pratique agricole pour déboiser ou pour renouveler les sols. Et ça, on peut remonter à très longtemps, je crois.
On peut remonter à très longtemps. Donc quand on dit maintenant et on parle de la période historique, probablement les deux derniers milliers d'années, l'essentiel des causes de feu, c'est l'humain. On peut même remonter plus que ça. Si on parle de l'Australie, par exemple, probablement les feux australiens sont largement associés à l'homme depuis plusieurs dizaines de milliers d'années.
Et ça, on a retrouvé donc des preuves, comme vous disiez, des charbons paléolithiques ou...
Des preuves de l'existence de ces feux, oui. Des preuves de la cause humaine des feux.
C'est plus compliqué. Et du coup, aujourd'hui, donc, bon, il y a effectivement les questions de mégots, il y a les accidents et puis il y a les éléments volontaires. Enfin, ce n'est pas forcément le sujet du jour, mais c'est aujourd'hui utilisé réellement dans les pratiques agricoles. Et ça, c'est aussi quelque chose qui remonte régulièrement. On en a parlé au fil des mois qui sont passés. C'est encore des pratiques qui sont utilisées pour exploiter ou pour entretenir les forêts. Est-ce que ça aussi, c'est des éléments qui jouent par rapport à ces incendies dont on parlait sur le côté, bah, là, du coup, on n'est pas sûr de la gravité puisqu'on l'exploite.
Oui, le feu, ça a toujours été un ami de l'homme, pour de la civilisation humaine, pour beaucoup d'aspects de la vie courante, pour manger, cuire les aliments. Donc le feu est associé à la civilisation depuis toujours. Donc c'est pas forcément toujours négatif. Le problème, c'est que le feu, c'est toujours... on peut se brûler avec. Et ça, on le sait depuis longtemps. Et c'est dans ce sens-là qu'il peut y avoir des accidents. Mais dans les pratiques agricoles ou les pratiques forestières, La pratique classique pour ouvrir un pan de forêt et pour mettre un champ, ça a toujours été de couper le bois, de sortir les rondins pour en faire des maisons, en général. Hein. Et puis tout le reste, on le brûle. Alors il faut faire attention à le faire quand c'est pas trop sec, pas trop chaud. Et là, c'est des facteurs biophysiques qui sont très importants à prendre en compte. Si on se trompe, là, on peut faire des catastrophes.
Et alors justement, si on regarde maintenant à l'échelle plutôt globale, à l'échelle du climat, puisque on l'a évoqué, hein, ces méga-feux sont liés à ce changement climatique. Alors Pascal, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ils sont liés ? Est-ce que c'est parce que les forêts sont plus sèches ?
Alors, comme on vient de dire, la plupart des feux actuels sont d'origine, disons, humaine, soit un accident, soit un acte criminel, ou que ce soit. Enfin, plus de 70% des feux sont d'origine humaine. Maintenant, leur propagation, la raison pour laquelle tout brûle, c'est-à-dire que il y a 100 ans, une allumette ne ferait pas forcément les mêmes dégâts que maintenant, c'est parce qu'on a une accentuation des sécheresses, en particulier dans les moyennes latitudes et dans les tropiques. Donc on a des périodes de sécheresse qui sont plus longues et qui favorisent des conditions pour que le feu se propage. Donc ce changement climatique en fait accentue la probabilité, la propagation des feux. Donc c'est ce qu'on a vu par exemple l'année dernière en France, en Gironde, et même en Bretagne, on a eu des feux qui se sont propagés, alors que en Normandie, en Bretagne, c'était assez exceptionnel. Mais tout ça, c'est vraiment lié à la sécheresse qui est amplifiée par le changement climatique. Alors après, on a des microphénomènes. Enfin, on peut avoir des déclenchements de feu par des orages. Alors, ce qui est remarquable, c'est que ces méga-feux, en fait, créent leur propre météorologie et créent des conditions propices à un orage. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un déclenchement de méga-feu par ciel complètement clair, il y a zéro nuage, et les nuages générés par la combustion elle-même peuvent provoquer des orages qui vont étendre le feu encore plus loin. C'est ce qui s'est passé en Australie il y a deux ans de mémoire. C'est une autopropagation de l'incendie à cause des orages, alors qu'il n'y avait pas de cumulonimbus. C'est le feu lui-même qui crée sa météo. Oui. Donc c'est assez terrible.
Et en gros, on a un espèce d'entretien, comme vous le disiez, et finalement, l'incendie devient la conséquence, a pour conséquence d'autres incendies, etc.
Exactement.
Et finalement, alors le changement climatique, c'est une des causes de ces méga-feux, un élément majeur, ce que vous veniez de dire là, mais c'est aussi une conséquence, puisque lui aussi l'entretient. si je comprends
fait.
Bien.
Donc, il y a plein de conséquences. Donc, non seulement on dégage plus de CO2 dans l'atmosphère, donc un CO2 qui va être plus difficile à absorber dans l'immédiat, donc on réchauffe tout simplement toute la planète, mais en plus, localement, sur des échelles spatiales qui sont assez petites, on va créer des orages. On peut créer des orages. Mmh. Alors que le ciel est clair, hein, donc on crée des orages, donc des orages secs, hein, il ne pleut pas, mais sauf que l'orage, l'éclair, va propager le feu.
Mmh. Et alors, en termes d'impact, en termes de gravité, si je peux dire, de ce relargage de CO2 dans l'atmosphère, est-ce que c'est beaucoup ce que relargue un méga-feu, si on veut comparer, je ne sais pas moi, avec si on peut avoir un comparatif avec ce que le CO2 qui est émis, par exemple, par une ville, une grande ville, ou par la circulation automobile, je ne sais pas, comment on peut comparer, comment on peut se faire une idée de ce que ça rejette dans l'atmosphère,
un méga feu. On est capable de faire des mesures assez fines.
Oui.
C'est des choses qui se mesurent. Il y a beaucoup de stations d'observation, des gens qui font des modèles, enfin qui font des choses très compliquées. Donc je ne fais pas partie de ces équipes et qui sont capables d'estimer les stocks de carbone qui sont réémis dans l'atmosphère, alors qui seront absorbés peut-être par l'océan, mais pas immédiatement, donc là, c'est l'océan qui absorbe à peu près un tiers de ce qu'on a dans l'atmosphère, mais si on prend des échelles assez courtes, par exemple la canicule de 2003, on célèbre son 20e anniversaire, donc il y a eu de gros feux en France, beaucoup d'arbres se sont arrêtés de fonctionner et ça correspondait pratiquement à une année d'émission de gaz à effet de serre. Donc,
incendie.
C'est voilà. En un été. On a arrêté d'absorber l'équivalent d'un an de CO2. Et donc, ce qui s'est passé au Canada, sur des superficies nettement plus grandes, les feux de forêt au Canada cet été, c'est un quart de la superficie française. Donc, c'est énorme. Et donc là, il faut planter l'équivalent de plusieurs milliards d'arbres pour réabsorber ce qui est parti en fumée.
Jérôme, vous vouliez réagir ?
Oui, juste pour donner aussi l'ordre de grandeur, on peut assez bien mesurer les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, parce que ça, on sait faire depuis les années 50. Mm-hmm. Et on voit bien que c'est une augmentation très régulière. Ça, on le sait, c'est les effets, le phénomène majeur du changement climatique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit souvent des petits pics, enfin, assez régulièrement des petits pics. Et ces petits pics sont dus soit à des effets volcaniques, soit... en 1997-1998, un méga-feu à Bornéo qui était dû à un événement de sécheresse très intense. La forêt a pris feu, mais encore pire que ça, la tourbière sous la forêt, qui stocke des quantités énormes de carbone, a pris feu et a continué à brûler pendant des mois et des mois. Donc ça, c'est vraiment un effet qui est très très visible dans les émissions de dioxyde de carbone, et c'est un effet qui fait un pic comme ça.
Qu'on voit autant que l'éruption d'un volcan.
Tout à fait.
Ouais. Et alors du coup, là, vous parliez des tourbières. Donc, on a cette notion... Alors, grave, je sais que c'est un mot compliqué, le mot grave, parce qu'effectivement, grave, pour qui, pourquoi ? Mais par rapport à un incendie sur une tourbière, on a effectivement ce que vous venez de dire, ce côté du relargage qui va durer pendant très longtemps, avec beaucoup de carbone relargué. Est-ce qu'il y a des incendies qui sont plus graves que d'autres ? Est-ce qu'on peut poser cette question.
Alors, du point de vue de la forêt.
Du point de vue de la forêt.
Du point de vue de sa renaissance ou de sa survie. Est-ce qu'il y a des feux qui détruisent complètement des forêts pour toujours ?
C'est ça. Donc, pour enfoncer le même clou, la gravité en général, quand on parle de gravité, on parle de gravité pour les hommes.
C'est ça.
Donc, ça, c'est une question qu'on peut aborder après. Mais si on parle uniquement de la gravité pour la forêt, pour l'écosystème forestier, une forêt qui brûle pendant plus longtemps, avec des températures plus importantes, va faire plus de dégâts. Mm-hmm. En gros, ça va tuer les arbres, alors que beaucoup de feux ne tuent pas les arbres.
Okay.
En région méditerranéenne, les arbres sont adaptés, sont préadaptés à ces phénomènes de feu, parce qu'ils sont très récurrents. Mm-hmm. Et ça permet aux arbres de survivre, et donc de remettre des feuilles après, et de persister. Mais il y a certaines conditions, des feux très intenses, avec des vitesses de vent relativement faibles, justement, qui vont avoir un impact plus important sur l'écosystème forestier.
Alors pour illustrer justement ce que vous venez de dire, Jérôme, je vous propose d'écouter un extrait d'un journal télévisé de France 2 de 2012. Il s'agit d'un reportage au cœur de la montagne Sainte-Victoire, près d'Aix-en-Provence, dont toute la forêt a brûlé lors d'un incendie en août 1989, soit 23 ans avant le reportage. Le journaliste a été envoyé sur place pour constater la repousse de la forêt.
La forêt d'origine n'est pas reconstituée, mais tout a repoussé naturellement. Là où l'homme est intervenu en tentant de reboiser, c'est un échec.
On a un plant d'alisier terminal qui est issu de plantations. La différence de croissance parle d'elle-même, hein, entre cet arbre qui mesure 10 cm ou les chênes pubescents 30 à 40 cm de hauteur et ces chênes verts donc, qui ont rejeté après le feu ou ces pins d'Alep donc, qui atteignent des hauteurs de 4 à 5 mètres maintenant, 20 ans après.
Les habitants restent très marqués par ce terrible incendie, mais aujourd'hui, il n'en reste aucune trace.
Après le feu, c'était désolant, quoi. C'était un désastre. Mais comme on savait qu'elle avait brûlé il y avait, je sais pas, environ 70 ans avant, et qu'elle s'était reconstituée, eh ben, on a dit, la nature reprendra ses droits.
Alors Jérôme, est-ce que la nature reprend toujours ses droits après un incendie de forêt, quel que soit cet incendie ?
Alors ça dépend. Si l'intention de ce feu, c'est de transformer l'usage de la terre, ce qui est un cas très classique aujourd'hui, on le voit par exemple en Amazonie, on voit beaucoup de feux en Amazonie parce que l'intention est de convertir la forêt en pâturage pour l'élevage bovin.
Donc là, c'est l'objectif de bloquer la résilience.
Voilà. L'idée, c'est de bloquer la résilience, c'est l'interprétation. Mmh. L'idée, c'est aussi de contribuer à une économie globale. Ce qui est le fait et la motivation primaire. Dans ce cas-là, oui, c'est irréversible. Dans un cas naturel, effectivement, la nature reprend ses droits vu que le climat n'est pas complètement changé de nature entre-temps.
Mmh. Oui, c'est ce qu'on entendait dans le reportage. Il y a certains arbres qui étaient replantés par l'homme qui, en fait, ne repoussaient pas. Et c'était plutôt les arbres naturels, c'est-à-dire que, qui ont repoussé tout seuls, qui avaient grandi en l'espace d'une vingtaine d'années. Hein.
Oui, alors ça, c'est un enjeu important de savoir quelle espèce planter. Est-ce qu'il faut profiter de l'occasion qu'on va replanter pour planter des espèces qui ont une valeur commerciale, ou est-ce qu'on laisse la nature faire et potentiellement pousser des arbres qui ne vont pas du tout être exploitables, des chênes verts qui ont des formes toutes biscornues, qui peuvent être jolies, mais qui ne seront absolument pas exploitables commercialement.
Mmh. On revient sur cette question de l'usage et de pourquoi on le fait, quoi. Mmh. Ou pourquoi c'est...
C'est souvent l'économie qui fait tourner le monde.
Est-ce qu'on sait en combien de temps une forêt repousse ou revient peut-être? Alors ça ne veut pas dire grand-chose à l'état zéro ou à l'état d'avant le feu. Là on entend une personne dans le reportage qui dit « il y a 70 ans ça avait brûlé, puis en fait c'est revenu normal ». C'est ça le pas de temps pour reconstituer une forêt? Quelques dizaines, enfin près de 100 ans en fait?
Oui, l'homme a toujours été proche de la forêt parce que les échelles de temps de la forêt, c'est souvent les mêmes échelles de temps que l'homme. Une génération humaine, c'est une trentaine d'années. Mmh. Une génération pour une forêt, c'est aussi une trentaine d'années. C'est pour ça qu'on aime beaucoup transmettre, quand on possède un lopin de terre forestière, transmettre à la génération suivante. Ouais. En vérité, quand on pense au stock de carbone d'une forêt, ça met plus qu'une trentaine d'années souvent. Ça met jusqu'à une centaine d'années pour récupérer l'ensemble du stock de carbone, c'est-à-dire de biomasse, dans une forêt.
Donc là, on parle d'une forme de résilience au niveau de la forêt. Au niveau du climat, on pourrait parler de ça, Pascal Liu. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y aurait une résilience, possiblement, à l'échelle du carbone, du cycle du carbone, du CO2 de l'atmosphère?
Alors, en fait, j'ai un peu de mal à le croire, parce que c'est pas du tout ce qui se passe. Enfin, il y a 70 ans et il y a 30 ans, en fait, le climat était différent. Et il y a certainement plus de différence entre 70 ans et 30 ans que... Enfin, il y a moins de différence entre il y a moins 70 ans et moins 30 ans que entre le début du 21e siècle et 23 ans après. C'est-à-dire que on dit que la nature reprend ses droits, certes, mais j'ai du mal à croire que ces droits soient identiques qu'avant. C'est-à-dire que on a maintenant un problème d'invasion de, d'espèces. Enfin, il y a des espèces invasives, et donc la nature pourrait effectivement reprendre ses droits, mais sous une forme assez différente. Donc, il y a en 89, c'est un coup de chance. Je pense que c'était un coup de de gens, ça revient comme avant. Mais si on n'arrive pas à refaire, si la nature ne reprend pas ses droits, justement, à l'heure actuelle, la nature a moins de chances de reprendre ses droits qu'elle n'en avait il y a une cinquantaine d'années. Tout simplement parce que le climat a changé et qu'on a du commerce et que certaines espèces invasives sont capables de s'installer et de prendre la place d'autres espèces. Et ces espèces invasives, en fait, elles sont pas forcément souhaitables, enfin, pour les humains et pour les écosystèmes qui sont pas partis. Donc on a quand même de forts risques de changement de paysage. Donc ça peut être acceptable comme ça peut ne pas être acceptable pour notre société.
Donc effectivement, il y a quand même un changement qui est réellement visible au niveau de l'évolution des écosystèmes et donc là, ce que vous évoquiez à l'instant. Parce qu'on a vu, nous, au niveau du Quai des Savoirs, quand on a ouvert l'exposition Feu, méga feu, on a eu des gens qui nous ont dit non mais méga feu, c'est une vue de l'esprit, et de toute façon la nature reprend ses droits et puis and so what, pourquoi on fait une expo là-dessus? Et c'est vrai qu'on sentait derrière cette idée des climato-sceptiques qui disaient de toute façon ça va repousser et puis voilà. Mais oui, de ce que vous nous dites là, effectivement, ça repousse certes, mais ça repousse pas à l'identique et ça repousse avec des conséquences à la fois sur le carbone dans l'atmosphère, mais aussi sur l'évolution des écosystèmes et des espèces.
Oui, c'est important ce que vous nous dites parce que c'est souvent un argument utilisé par les climato-sceptiques. Et donc, du coup, c'est très important de comprendre que vous dites que la nature a de moins en moins de droits et en tout cas, elle reprend pas ses droits d'avant.
Non. Alors, il y a un exemple assez concret, en fait, qui est dans le sud de l'Espagne, où il y a quelques décennies, voire un siècle ou deux, c'était de la forêt. Donc, on a déforesté pour faire des serres, et c'est devenu un désert. En fait, quoi qu'on fasse, ça ne repoussera jamais. Donc, que la nature reprenne ses droits, mais pas partout, pas n'importe où. Et donc, il y a des endroits, et donc l'Espagne, c'est pas si loin de ça que chez nous, on a un prototype de cas où la déforestation, alors là, c'était peut-être pas des feux, enfin, on a pris le bois, et peut-être qu'on s'en est servi pour faire autre chose, mais on a créé des conditions climatiques qui, à l'échelle d'une région, ont fait que les arbres ne reviendront jamais parce que c'est devenu un désert. Donc c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que les méga-feux peuvent créer un nouveau climat qui fait que les arbres ne reviendront peut-être jamais, tout simplement parce que il pleut pas assez, les conditions climatiques, je vous parle même pas des conditions du sol, les conditions climatiques ne sont plus propices à l'apparition de forêts. Donc ça, c'est un risque, le risque que la nature elle-même ne reprenne pas ses droits. Donc pour l'instant, on a eu de la chance. Enfin, donc les gens, les témoins là, de ce reportage ont de la chance, mais on pourrait ne pas avoir de chance. Et il y a des exemples où on n'a pas de chance. Aller visiter le sud de l'Espagne.
Alors, juste là, on parlait de l'Espagne, c'est relativement proche de nous. Jérôme, vous êtes spécialiste de l'Amazonie. Est-ce qu'il y a des endroits, un peu comme vient de l'évoquer Pascal, en Amazonie, où effectivement, ça ne repoussera pas? Parce que je regardais ce matin des podcasts et il y avait une question un peu provocatrice. Est-ce que c'est la fin des forêts amazoniennes?
C'est une discussion qui est assez vivace en ce moment. Est-ce qu'il y a même un point de bascule de cette région? D'une zone qui est une forêt, vraiment une très très grande forêt, puisqu'elle fait 10 fois la taille de la France.
Quand même.
Donc c'est 6 millions de kilomètres carrés, vers un état qui sera autre chose. Alors ça sera toujours de la végétation, mais ça sera plutôt quelque chose qui ressemblerait à une savane avec quelques arbres qui se courent après, et potentiellement aussi beaucoup de cultures. Donc cette question, on ne sait pas encore. On a cette crainte dans la communauté scientifique, et cette crainte est probablement aujourd'hui repose sur des preuves scientifiques qui sont pas forcément très fortes, mais ce qui n'empêche pas une grosse communauté scientifique de s'inquiéter sur ça et de continuer à essayer d'explorer avec plein de technologies, de modélisation et d'exploration sur le terrain, pour essayer de répondre à ce type de questions.
Alors justement, comment on peut suivre l'état de santé de ce type de forêt? Alors la forêt amazonienne, avec sa taille, comment on monitore ces forêts? Vous, en tant que scientifique, comment vous avez des informations? Il faut aller sur place, il faut aller faire des observations en direct.
Il faut regarder du ciel.
Oui, vous utilisez des satellites, vous utilisez quel type de technologie?
Je crois que la réponse, c'est qu'on essaie d'utiliser toute la palette des possibilités qui nous sont offertes. qu'elles soient technologiques ou qu'elles soient vieux jeux, qui des fois sont
des techniques. Oh, le vieux jeu, ça marche bien des fois.
C'est-à-dire d'aller sur le terrain, de prendre un double décimètre et de mesurer le diamètre d'un arbre, et puis ensuite prendre le diamètre de son voisin et continuer pendant des jours et des jours pour mesurer tous les diamètres, et puis revenir 5 ans plus tard. Donc c'est des accumulations de connaissances qui sont lentes, qui sont fastidieuses et puis qui coûtent cher en litres de sueur dépensée, mais qui sont très très importantes parce que ça permet d'avoir justement des comparatifs sur le temps long également.
Oui.
Parce que bien sûr, on a une crainte qui est un point de bascule, c'est-à-dire un événement catastrophique imminent et global, enfin ou régional en tout cas, mais on peut aussi espérer qu'on ait dans ce temps long les précurseurs, les signes avant-coureurs d'un éventuel changement comme celui-là. Naturellement, c'est complémentaire à des technologies très très fortes qui sont très puissantes, comme la télédétection ou la modélisation, qui sont des outils aussi alternatifs.
Alors pour nous projeter un petit peu dans le futur de cette observation de la forêt, on a demandé à notre autrice de science-fiction, Licam, de nous écrire un petit texte qui va nous parler, nous projeter comme ça dans un futur possible et peut-être désirable de l'observation de la forêt. Ça s'appelle « Les voies de la forêt ».
D'abord, je l'écoute. Elle souffle, elle bruisse, elle piaille.
Je la contemple.
La configuration de sa canopée, le nombre et la couleur des feuilles, la vigueur des troncs et des branches, l'équilibre des différentes essences.
Je la touche.
L'épaisseur des écorces, leur rugosité sous mes doigts.
Je la sens.
Elle exhale des parfums subtils qui pourraient passer inaperçus pour qui ne sait pas les détecter et les interpréter.
Ensuite, il me faut aussi goûter l'humus, fouiller et prélever des échantillons.
La forêt a tellement de choses à dire. Elle est bavarde. Elle parle une langue complexe qui nécessite tous mes sens, mais aussi des centaines de milliers de capteurs qui comptent, analysent et modélisent chaque arbre, chaque herbe, chaque être vivant, des mammifères aux bactéries, des oiseaux aux larves et aux vers de terre. Pour la comprendre, j'ai également besoin des satellites qui participent eux aussi à la collecte des données. Ce foisonnement extraordinaire d'informations alimente Silva, la simulation 3D de l'écosystème forestier.
Toute cette technologie ne me dispense pas néanmoins de me rendre sur place, car rien ne vaut une promenade sous la canopée pour prendre le pouls des arbres. Je me dois d'écouter ce que dit la forêt, car je suis sa voix.
Je transmets aux humains comment elle se porte, les difficultés qu'elle rencontre, ce dont elle a besoin.
Il y a 30 ans, cette forêt a brûlé. Je n'étais alors qu'une enfant, mais le choc a été si grand que je suis encore hantée par les flammes gigantesques coiffées de tourbillons de fumée et le paysage de désolation qu'elles ont laissé derrière elles. C'est ce traumatisme, sans doute, qui m'a conduite à devenir mandatrice de la forêt, à apprendre sa langue et à porter sa voix parmi les habitants de la ville.
Avec l'aide de Silva, je veille.
Il faudra encore 50 ans pour que la forêt se remette complètement du méga-feu qui l'a ravagé. Et j'espère qu'elle hébergera un jour des arbres centenaires.
Texte Licam, voix Corinne Mariotto, sound design et réalisation François Donato.
Alors voilà une fenêtre ouverte sur un futur possible avec peut-être un lien intime, hein, renoué avec la forêt. Vous nous avez dit, Jérôme, que de tout temps, l'homme et la forêt ont cohabité, coexisté, qu'il y avait un même pas de temps au niveau de la chronologie, hein, des générations. Cette intimité retrouvée avec la forêt, est-ce que ça fait partie des conditions pour un futur un peu plus désirable avec ces forêts, pour éviter que les forêts disparaissent et prêter une attention nouvelle, peut-être à notre environnement? Qu'est-ce que ça vous évoque?
Oui. J'encourage tous les auditeurs à aller en forêt, à se balader et aller passer du temps dans les forêts. C'est, je pense, le meilleur conseil qu'on pourrait donner pour un week-end.
Aller se promener en forêt, il y a des écoles qui se passent en forêt. Dans certains pays du Nord, on a des classes qui découvrent et qui même se déroulent dans la forêt. Au Danemark, oui, par exemple, en Scandinavie.
Oui, bien sûr. Après, il y a des contingences purement matérielles qui font que les forêts sont de plus en plus loin des villes. Et que c'est pour la plupart d'entre nous, c'est de plus en plus compliqué d'aller dans les forêts, donc de voir de visu ce que c'est vraiment la forêt. Est-ce que c'est une forêt? Est-ce que c'est une plantation? Est-ce que tout ça, c'est pas tout à fait la même chose. Et voilà, ça s'apprend. Mais le plus tôt et le mieux.
Et Pascal, pour vous, quand vous essayez de vous projeter dans le futur, ou quand vous pensez au futur, comment vous voyez l'état de nos forêts et les forêts sur la planète à l'échelle globale ?
Alors, quand on regarde les rapports de l'OMM sur l'état des forêts, en particulier la forêt amazonienne, mais il y a aussi des forêts scandinaves qui sont en danger, je suis quand même vaguement inquiet, mais la forêt, c'est quand même, comme disait Jérôme, l'homme a toujours vécu près de la forêt, on a besoin de bois. Donc moi qui joue de la musique, j'ai besoin de forêt pour
les instruments.
J'ai besoin de savoir que l'homme pourra continuer à fabriquer des instruments de musique de qualité, pas en plastique, mais avec du vrai bois. Donc voilà, pour les musiciens, je pense qu'il faut continuer à investir dans la forêt et faire en sorte que la forêt continuera encore longtemps, ne serait-ce que pour la culture et finalement le bien-être de l'humanité.
Mmh. Et est-ce qu'on pourrait imaginer que les forêts deviennent des abris pour les humains dans le futur avec le changement climatique ? Parce qu'on a tout un mouvement de, alors je ne vais pas dire reforestation des villes, mais en tous les cas du végétal dans la ville, on se rend compte qu'avoir coupé des arbres pendant des dizaines d'années, bah, ça a conduit à créer des îlots de chaleur, hein, ce qu'on appelle des îlots de chaleur, donc des endroits dans la ville où il n'y a que du minéral, que du béton, et l'été c'est extrêmement chaud, et pas que l'été. Et du coup, est-ce qu'aller vivre dans les forêts avec le risque évidemment que ça embarque, est-ce que ça peut être une des visions du futur ?
Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre les arbres et la forêt. Je pense qu'on est trop sur Terre pour vivre dans des forêts, à moins de tout casser. Enfin, donc, il n'y a pas de forêt à plusieurs étages. Donc, notre mode de vie, à l'échelle de plusieurs décennies, enfin, sera quand même dans les villes. Et comme vous dites, on est en train de revégétaliser les villes, même à Paris ou j'imagine à Toulouse. Il y a des plans, d'urbanisme sont modifiés pour pouvoir faire pousser des arbres dont les vertus sur la température, l'humidité sont très importante pour limiter les effets de vagues de chaleur. On n'empêche pas la vague de chaleur d'un point de vue météorologique, mais on peut limiter ses effets grâce aux arbres. Donc on ne va pas faire pousser des forêts en ville, pour des raisons évidentes, mais avoir des arbres en ville qui ne sont pas des forêts, en fait, peut limiter beaucoup d'effets négatifs de certains extrêmes climatiques. Donc, moi, je vois plutôt l'avenir comme ça, enfin, en étant un peu pragmatique. Faisons pousser des arbres. Vivre en forêt, pour moi, est une utopie qui ne me semble pas réalisable à l'échelle de l'humanité. Moi, je serais tout à fait prêt à le faire, mais je pense que ça poserait plein de problèmes logistiques que nous ne sommes pas prêts à résoudre.
Et Jérôme, vous aviez envie de réagir ? Est-ce qu'on pourrait se réfugier là-bas ?
Certains d'entre nous pouvons, effectivement, nous sommes trop nombreux pour occuper tous la forêt. N'oublions pas non plus qu'on est en train de sortir de la civilisation des énergies fossiles et que l'une des énergies alternatives, c'est le bois. Et c'est à la fois une opportunité, mais surtout une inquiétude, c'est de se dire que si on doit faire cette bascule et qu'on s'appuie sur l'une des rares énergies qui était présente avant les énergies fossiles, c'est un facteur de risque très très important pour les forêts. Et donc, c'est aussi des éléments qu'il faut prendre en considération pour, si on veut planifier pour les prochaines décennies, comme le faisait cette petite capsule de science-fiction, et il faudra faire attention à cet élément.
Détour vers le futur, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à nos deux invités, Jérôme Chave et Pascal You, pour vos explications.
Merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes de Détour vers le futur ainsi que les références citées dans ce numéro sur le site web du Quai des Savoirs.
Détour vers le futur, un podcast présenté par Laurent Chicoineau et Marina Léonard, préparé avec l'aide de Françoise Bissac.
Réalisation Arnaud Maisonneuve, à la prise de son Laurent Caudoul, une production du Quai des Savoirs. À très bientôt. Ciao.